Bonjour à tous, bienvenue au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu clivant. Les cyclistes le détestent, les ours l'adorent, Chewbacca le représente et Barthez n'en a plus un seul sur le caillou. Vous avez compris, aujourd'hui, on va faire une émission au poil. Et pour nous parler des contrariétés capillaro-juridiques qui nous aurons avec vous, Émilie ? Emeline, mais purée, je vais y arriver quand même.
Bonjour.
Merci Emeline. D'un point de vue barbe historique, nous aurons Pierre.
Salut.
Et pour voir l'aspect pileux du monde geek et informatique, nous aurons avec nous Mira.
Bonjour à tous.
Je me présente d'ailleurs Béranger, je vais présider ce conseil de classe et on commence tout de suite avec une approche historique au poil avec Pierre.
Ah là là, quel sujet de merde, putain, quand je vois débarquer ça, alors moi je me suis penché sur un questionnement qui est quand même absolu, face au poil, le poil fait-il le dictateur ? Telle a été ma problématique du jour, en clair, y a-t-il un poil de gauche ou un poil de droite ? Est-ce que le dictateur de gauche a une pilosité particulière ? Le dictateur de droite une pilosité inversée ? Ça c'est vraiment le problème majeur auquel je me suis confronté. Alors je vais être honnête, hein, j'ai commencé par les moustaches de Plettziglat. Tintin oblige et la longue lecture de Tintin que j'ai faite dans ma prime jeunesse m'a ramené vers là. Et puis à partir de ça, eh bien, comment faire ? Après, je me suis attaqué aux barbus. Alors les barbus c'est simple, chez les dictateurs, le barbu globalement a plutôt une tendance de gauche. C'est Lénine, petit bouc, sympatoche, ici du terroriste, pardon, non, du... bolchevique moyen, ici. Un peu plus tard, Castro, qui apporte une nouvelle tendance, version latino-américaine, légèrement courte, et son acolyte argentin, le Che, effectivement, est un petit peu dans la même logique et dans la même pratique. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le barbu en dictature se fait rare. J'ai bien trouvé Kadyrov en Tchétchénie, un aimable séide de Mr. Poutine, un charmant personnage, effectivement, qui a une particularité, indépendamment d'avoir la barbe, c'est d'être un sale con. Mais ça, c'est une autre affaire. Se pose la question, qu'est-ce que je fais du reste de la pilosité ? Alors, il y a les glabres, les bien rasés. Jules César, waouh, trop fort, Jules César, toujours bien représenté, bien rasé, un petit passage chez le tonsor avant de venir à l'émission, enfin, le truc tranquillou-pilou. Et puis derrière, et après, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'au 20e, on a des beaux exemples. Ceausescu, franchement, le génie des Carpates, le Danube de la pensée. Voilà un mec bien rasé, propre sur lui. J'ai détruit un quartier complet de Bucarest pour faire bâtir mon palais. Je vais dans un hôtel, je pique tout ce qui traîne. Enfin voilà, un mec charmant. Autre copain dans le même genre, la tendance est quand même inversée, plutôt à droite. Salazar au Portugal... Mais aussi Mao, tiens, curieusement, là aussi, on retrouve une pilosité soignée, qu'on va retrouver chez Nasser ou chez Kim Jong-un dans une période plus récente. Reste aussi, et puis les inconnus, ceux qu'on a oubliés, Amin Dada, wow, grand leader ici africain, le potentat glabre qui se la joue un peu. Et puis alors, j'ai trouvé, c'est étonnant, une cohorte de moustachus. Donc j'en ai conclu abusivement que la moustache fait le dictateur. Donc là... Je passe sur les habitués, Adolphe, celui-là, tout le monde la voit. Et ce type de moustache, d'ailleurs, est quelque peu tombé en désuétude, on se demande pourquoi. La moustache version stalinienne, petite pointe retroussée, pareil, là, plus très à la mode, hormis dans les milieux très informés de la poutinerie ambiante. Et puis alors, j'en ai une cohorte à droite. Videla, en Argentine, le petit dictateur oublié des années 70, voilà, la dictature de proximité, petit mec sympathique, sceptique. Son petit collègue chilien, Pinochet, ici. Franco, si on est un peu plus raisonnable dans nos pratiques géographiques, mais aussi le maréchal Pétain, tiens, oublié celui-là. La petite moustache aussi, en version vichiste, ça le fait pas mal. Et puis, j'ai les récents. Et les récents, alors le moustachu, c'est le moustachu du monde arabe en ce moment. C'est Saddam Hussein, les Al-Assad, père et fils. Là, on porte moustache, ça pose son dictateur. Donc une fois que j'ai tout ça, bah effectivement, globalement, beaucoup de moustachus. Et puis, il y a une pilosité que j'ai oubliée, par laquelle, logiquement, je vais être amené à finir, c'est les sourcils. Y a-t-il un dictateur à sourcils ? Et là, j'ai trouvé le sourcil sur le gâteux. Franchement, Léonid Brejnev, l'oublié de l'Union soviétique. Et celui-là, il est extraordinaire. On ne le connaît que pour ça. Cette barre de sourcils qui pose son mec et qui va gouverner l'Union soviétique. Enfin, gouverner, c'est un grand mot ici. L'Union soviétique, après Nikita Khrouchtchev, autre grand chauve s'il en est. Donc, en passant là-dessus, j'ai quand même raconté une somme de conneries assez hallucinante. Et non, malheureusement, le poil ne fait pas le dictateur. Il n'y a pas de règle, si ce n'est effectivement que la dictature se passe du poil ou le poil se passe de la dictature. Je vous laisserai juger quelle est la formule la plus adaptée à votre cas. Merci.
Merci Pierre pour cette chronique au poil. Alors on en conclut quand même la présence de la moustache récurrente chez les dictateurs. J'ai donc un peu peur pour les fans de Freddie Mercury. En tout cas, notre groupe suivant n'a pas la moustache mais une bonne grosse beubare. On va parler de ZZ Top.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Rebonjour à tous, vous êtes toujours au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi, une émission en partenariat avec l'UPOP du Pays Viennois. Pensez à regarder les dates sur le site internet. On va continuer sur notre thème du poil qu'on évalue aujourd'hui et on va avoir une chronique juridique avec Emeline.
Alors, c'est du poil ou plutôt de son éradication volontaire que je vais me faire l'avocate aujourd'hui. Car contrairement à ces femmes qui, ma foi, font ce qu'elles veulent, hein, avec leurs gambettes habillées pour l'hiver et ne méritant en rien les tonnes d'insultes que leurs jambes velues ont engendrées, je continuerai à être de celles qui s'arrachent le bulbe régulièrement, afin que jambes et aisselles demeurent plus proches du crâne de Dwayne Johnson, ou de Kojak hein, pour les plus de 40 ans, que de celui de Chewbacca. Et ce, pour plusieurs raisons, juridiques bien entendu. J'en retiendrai deux. La première, la lutte acharnée pour l'éradication absolue des poils coûte un fric hallucinant. En ces périodes d'inflation, nous recherchons tous des moyens pour générer du revenu. Eh bien, vendez vos poils. Halte là, je sais ce que vous allez me dire. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Et vous avez raison, ils sont hors commerce. Je suis à la fois heureuse et consciente de cela. En France, comme dans de nombreux pays du monde, la cession et l'utilisation des éléments et produits du corps sont toutefois possibles, mais dans des conditions très réglementées. Elles doivent d'abord être gratuites, aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Ensuite, ces actes doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menés dans le cadre de procédures judiciaires uniquement. Vous pouvez ainsi, de votre vivant, faire don de votre sang ou de votre moelle osseuse, d'un organe ou bien de tissu, de vos gamètes, de vos cellules, etc. Mais figurez-vous que ces grands principes d'indisponibilité et de gratuité ne s'appliquent pas à quatre produits bien précis. Par la grâce du Code de la santé publique, je fais littéralement ce que je veux de mes femmes. Autrement dit, de mes cheveux, mes ongles, mes dents et mes poils. Je peux les vendre. Évidemment, pour que l'opération soit licite, l'élément doit appartenir au vendeur et ne pas avoir été obtenu de manière illégale. Par exemple, sans le consentement de la personne à laquelle ils étaient rattachés à l'origine. Reste à trouver preneur. Des dizaines de sites internet proposent d'acheter des cheveux. Mais bon, le look des Mimours, très peu pour moi. J'ai de belles molaires plombées, mais comment ferait-elle concurrence aux dents en or que je vois parfois à 30, 50 ou 90 euros sur des plateformes de vente en ligne? En réfléchissant bien, je me dis qu'il est possible de s'offrir un complément de retraite bien plus intéressant avec la belle toison recouvrant le corps de mon cher et tendre. Je vais de ce pas lui rappeler qu'au nombre des catastrophes qui se profilent à l'horizon, le réchauffement climatique figurant en bonne place, il déteste la chaleur, j'aurai son consentement avant l'été, c'est sûr. La deuxième raison, le droit dispose que chacun dispose de son corps, mais cela justifie-t-il de souffrir? Ne nous mentons pas, l'épilation, c'est douloureux. Faute d'être sadomaso, il est possible de recourir à la lumière pulsée, pratiquée par une esthéticienne pour venir à bout ou au bout de nos poils, me direz-vous. Eh bien que nini! Les gérantes de trois centres d'esthétique d'Orléans et Blois ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour une histoire un peu tirée par les cheveux, enfin par les poils. Quatre médecins de l'agglomération d'Orléans ont assigné ces jeunes femmes pour exercice illégal de la médecine, rien de moins. Leur crime ? Avoir pratiqué régulièrement l'épilation par lumière pulsée, un procédé auquel auraient recours pas moins de 30 000 instituts de beauté en France. Sauf qu'un arrêté de 1962 vient préciser que tout mode d'épilation est un acte médical, sauf l'épilation à la pince ou à la cire. Détruire le bulbe est un acte esthétique ou médical alors ? Une poignée de médecins sourcilleux couperait-il les cheveux en quatre ? Le verdict est tombé. Le tribunal correctionnel estime que l'épilation par lumière pulsée est bien un acte médical et que les salons d'esthétique n'ont pas le droit de la pratiquer. Donc au final, oubliez l'éradication l'éradication low cost à la lumière pulsée chez votre esthéticienne préférée et videz votre compte épargne chez votre dermatologue ou votre chirurgien esthétique pour le même résultat. Ou alors sortez velu. Enfin, pas n'importe où, parce que dans l'Est de la Chine, par exemple, un Ouïghour musulman turcophone a été condamné à 6 ans de prison pour port de la barbe. Pour conclure, que vous soyez adepte du poil ou de son éradication, le droit vous laisse libre de choisir, hormis si des raisons impérieuses de sécurité au travail justifient leur élimination. Cher élève le poil, je vous aime bien. Et encore plus depuis que je sais que les poils de la barbe de mon conjoint pourraient renflouer notre compte bancaire de 10 000 euros si je les vends sur eBay.
Merci beaucoup Emeline. Je me souviendrai qu'il faut que j'évite d'aller en Chine vu la pilosité faciale que je porte. Et tout de suite, on va passer à Béranger qui, je crois, a des encouragements pour notre élève le poil.
Merci Mira. Alors, je vais être honnête, hein. J'ai galéré à trouver un angle pour ces encouragements. J'ai commencé par vouloir une approche historique, en décrivant comment la barbe a été alternativement symbole de sagesse, puis de saleté, avec une petite dédicace à Épictète, qui ira jusqu'à dire qu'il préférera la décapitation plutôt que le rasage. J'ai aussi pensé à une approche théologique, avec une étude dans le temps de la barbe de Jésus. J'ai même pensé à une chronique cinéma qui aurait permis de voir l'évolution du rapport au poil en comparant le torse des acteurs de films d'action au cours des années, parce qu'entre Magnum et The Rock, il y a quand même une sacrée évolution. J'ai aussi pensé à faire une chronique de droit du travail en parlant de Disney qui a fait un scandale quand ils sont installés en France et qu'ils ont interdit le port de la moustache. Alors évidemment, j'ai pensé aussi à faire la liste des meilleurs noms de salons de coiffure, ce qu'on adore tous faire. Je vous conseille d'ailleurs le site Putain, ils ont osé, qui répertorie les plus magnifiques. Mais soyons honnêtes, si je tourne autour du pot, c'est parce que je ne veux pas aborder LE sujet qui touche à la pilosité et qui me touche. La calvitie. Oui, je commence à perdre mes cheveux. J'ai des golfs qui se creusent tellement que je me lève tous les matins avec l'angoisse d'y voir un port de plaisance qui s'y est installé pendant la nuit. Elisabeth Kübler-Ross a identifié en 1969 les 5 phases du deuil qui s'appliquent normalement à la suite d'une annonce d'un décès imminent. Mais comme tout le monde l'utilise pour tous les domaines, on va aussi le faire pour ça. Écoutez bien, vous aurez peut-être un proche en perte de cheveux qui va passer par ces étapes. Ce serait bien de mieux le comprendre et de mieux l'accompagner dans cette épreuve. Étape 1, le déni. Pendant cette étape, vous refusez l'évidence. Non, ce ne sont pas vos cheveux que vous retrouvez sur l'oreiller le matin, ce sont sûrement les poils du chat. Qu'importe si votre chat est roux. Ce n'est pas une perte de cheveux, c'est une carence en vitamine D. Pendant cette phase, on peut porter un bonnet au mois d'août et on prend des poses improbables sur les photos pour trouver un angle, entre guillemets, capillairement flatteur. Attention, il ne faut pas que cette phase dure trop longtemps. Sinon, vous finirez par être ce type qui se laisse pousser une mèche de 30 km de long pour la rabattre sur la partie où il n'y a plus rien. Vous voulez pas être ce type. Mieux vaut passer à la phase 2. La phase 2, la colère. Vous êtes hors de vous, c'est trop injuste. La calvitie, c'est 1 homme sur 10 à la trentaine et 1 homme sur 3 à 50 ans. Toi qui n'as jamais gagné à la tombola de l'école de tes enfants ou qui n'as jamais gratté un ticket gagnant au tac au tac gagnant, il fallait que tu aies le ticket gagnant sur ce sujet-là. Et même dans le monde des super-héros, enfin, je veux dire, les chauves, ils sont pas respectés, ils sont pas représentés dans le monde des super-héros par exemple. Est-ce qu'il y en a des connus? Eh bien personne, enfin si, un seul. Lex Luthor, bon déjà c'est un méchant, et en plus il a pas de bol, il doit combattre le plus ingérable des ennemis, Superman. Et en plus, pas de bol, lui, franchement il a pas de chance, je suis sûr que lui non plus, il a jamais gagné un ticket de tombola. Vous passez pendant cette phase de colère vos samedis matins au Leclerc pour remplir les bouteilles de shampoing de crème dépilatoire pour que ces salauds de chevelus se mettent à votre place. Étape 3, le marchandage. C'est le moment où vous prenez à bras-le-corps le problème et vous commencez à chercher toutes les solutions mirables que vous trouvez. On découvre notamment des produits comme le minoxidil. Alors le minoxidil permet de faire repousser un duvet, mais il a comme inconvénient la dépression, une baisse de la libido et une perte d'estime de soi. En gros, t'as toujours tes cheveux, mais tu as tout ce que tu voulais éviter en les gardant. Et pour les plus marchands d'entre nous, il y a la Turquie. Alors je sais pas ce que la Turquie évoque chez vous, mais pour l'homme qui combat sa calvitie, c'est une sorte de lourde capillaire, royaume de la greffe à petit prix. Dans certains avions, on peut même voir des groupes entiers en retour de pèlerinage, avec des rangées pleines de crânes en cicatrisation, on dirait une petite barquette de tomates cerises. En 2021, 235 000 Européens ont eu recours à la greffe de cheveux. Phase 4, la dépression. Ça y est, vous savez que vous ne pourrez pas y passer. Vous regrettez vos années en tant que sosie capillaire de Lorenzo Lamas et vous savez qu'elles sont derrière vous. C'est une partie un peu moche. On fait des montages Photoshop de nous pour avoir les coupes de cheveux qu'on ne pourra jamais plus faire. On passe ses nuits en position fœtale en enlaçant une perruque et en écoutant du Kyo. Chacun ses goûts musicaux, ne me jugez pas. Phase 5, l'acceptation. Vous tombez sur un film avec Bruce Willis, Jason Statham ou autre The Rock. Et là, ou alors vous réalisez qu'un collègue de travail, au hasard un proviseur adjoint dont le nom commence par R, est sacrément charismatique avec son crâne rasé. Et ou alors vous tombez sur cette étude américaine qui dit qu'en moyenne, les femmes de plus de 40 ans trouvent les hommes chauves plus rassurants, plus charismatiques, plus sexy et plus grands. Si vous êtes marié, vous vous dites que madame ne vous quittera finalement pas pour ça, et si vous avez 25 ans, vous réalisez que le monde des cougars s'offre à vous. En gros, vous acceptez. Moi, mon épiphanie, je l'ai eu en regardant Les Animaux Fantastiques, où j'ai vu Jude Law, qui jouait Albus Dumbledore, en costume 3 pièces imprimé Prince de Galles, et qui abordait une coiffure mettant en avant ses golfs grandissant d'année en année. J'ai enfin pu dire qu'on pouvait perdre ses cheveux et être beau comme un dieu. Ce à quoi mes potes m'ont répondu « Ouais, mais t'es pas du de l'eau quand même ». Donc le secret, hein, c'est qu'avec ce changement, comme avec tous ceux qui marquent le temps qui passe, il faut l'accepter. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans vos sacs phases. Moi, j'ai un avion pour la Turquie à prendre.
Et bah merci Béranger, décidément. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui, et sur les poils, et sur la Turquie, et sur Jude Law. Alors, je me souviens que moi, on me critique quand même pour Henri Cavill, mais je le garde celui-là en mémoire. Tout de suite, on va passer par notre musique numéro 2 de l'émission avec Le Poil par Java.
Le Poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. C'est emmerdé. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil. Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. D'argent rentré dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture en rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, c'est je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin. Traqué dans les moindres recoins. Coin, coin. Je voulais pas finir comme fourniture. Pour perruque ou brosse à chaussures. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. J'ai dû partir, hey. On aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal. Dans une communauté au Népal, j'ai fondé mon paradis fiscal. Sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œuf, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.
Merci pour cette musique au poil. On va continuer. Donc, vous êtes toujours au conseil de classe, hein, l'émission qui note tout et surtout n'importe quoi. On continue notre émission sur le poil et les cheveux avec une vision geek informatique avec Mira.
Et oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va marcher sur des œufs, hein, car le sujet est délicat. Oui, notre élève du jour est le poil. Et en informatique, on a deux ou trois choses à dire à son propos. Mais ce n'est pas forcément joli joli, hein. Ou du moins, pas politiquement correct. Alors que purement factuel, hein, vous allez voir. Alors, bénédiction de la radio, vous avez ma voix, mais pas ma tête. Si tel était le cas, vous verriez que j'arbore fièrement une jolie barbe, et ce depuis mes études supérieures. Enfin, à l'époque, c'était plus timoré. Hein. Un bouc, une moustache, ce que mon barbier appelle un d'Artagnan. Tout ça pour dire que bien avant le mouvement hipster et le tsunami de retour de la pilosité faciale, s'il y a un corps de métier où porter la barbe a toujours été accepté, voire même revendiqué comme un signe de ralliement, c'est bien l'informatique. Prenez n'importe quelle photo d'entreprise ou organigramme d'une grosse structure entre les années 70 et 2010, le seul mec qui porte la barbe, vous pouvez être sûr que c'est le gars de l'IT. En général, il a également son t-shirt d'un groupe de métal ou sa chemise à fleurs, en fonction de la souplesse des ressources humaines. Et c'est terrible pour moi et mes congénères. Hein. Maintenant, nous perdons de précieuses minutes à interroger tous les barbus de l'open space avant de tomber sur le bon, comprenez par là, hein, l'informaticien. Alors vous allez me dire, mais Mira, c'est super sexiste ce que tu nous dis là. Si on te suit, il n'y a pas de femmes dans le domaine des nouvelles technologies ? Déjà, permets-moi de te remercier pour ta question, attentif auditeur, en quête de reconnaissance ou d'un sandwich au poulet, hein, vu que tu nous écoutes un jeudi à midi. Hein, voilà. Eh bien, la réalité est bien triste, oui. Hein. Il y a bien des femmes dans l'IT, mais cela reste une terrible minorité. Bien peu de jeunes filles choisissent cette voie professionnelle et c'est vraiment dommage. Sincèrement, cela fait maintenant 8 ans que j'enseigne à des classes de futurs professionnels de l'informatique et en général, sur 32 étudiants, j'ai une fille, voire deux, mais jamais plus. Et bien souvent, celles qui sont dans ce domaine s'orientent plus facilement vers le design ou le management que vers la pure technique. Ainsi, d'après le rapport de la Commission européenne DESI de 2020, seulement 18% des spécialistes des TIC, hein, comprenez par la technologie de l'information et de la communication, sont des femmes. Et 18%, c'est pas beaucoup, hein, sauf bien sûr quand il s'agit d'alcool dans une bière. Moi, je m'éloigne du sujet, alors, pour me faire pardonner, une petite anecdote au poil. Avant de prof, j'ai été analyste programmeur et à 21 ans, dans mon tout premier job en contrat pro, je me suis retrouvé lâché chez un client avec pour seul soutien un apprenti de l'entreprise, à peine plus vieux que moi. Et il se trouve que pendant que je faisais mes trucs de codeur, lui faisait ses machins de techos, et notamment l'entretien d'un ordinateur portable de notre cliente qui surchauffait. Et c'est là que ça se corse, hein, car après l'avoir démonté, il a très vite trouvé la cause du problème. Une accumulation massive de poils dans les ventilateurs du dessous de la machine. Mon collègue annonce fièrement à la cliente que ce n'est rien de grave et je cite « juste une quantité monumentale de poils de chat ou de chien, je ne sais pas quel type d'animal, ou d'animaux, pardon, vous avez chez vous. » Oui mais voilà, la cliente nous répond machinalement qu'elle n'a aucun animal, hein, qu'elle vit seule et se sert de l'ordinateur chez elle le soir pour travailler depuis son canapé en le posant sur ses cuisses. Avant de s'arrêter de parler, de rougir violemment et de laisser la place à un bon gros moment de gêne bien lourd. Mon collègue a appris ce jour-là qu'il ne fallait jamais faire de suppositions dans notre domaine et encore moins de commentaires. Quant à moi, j'ai depuis ce jour pris l'habitude de démonter et de souffler la poussière et autres poils de l'intérieur de mes ordinateurs 2 fois par an. Et je vous invite à le faire également. Hein. Qui sait, ça pourrait bien un jour vous éviter un bon gros moment de solitude avec un technicien venu pour vous dépanner. Pour ce qu'il en est de notre élève, je refuse de le juger et je lui conseille simplement de faire comme il le sent.
Merci pour cette chronique, Mira. Alors, c'est très drôle, hein, votre anecdote me fait penser à une publicité qu'on voyait sur Vienne à une époque pour un salon d'esthétique avec une personne qui avait vous vous souvenez pas, qui avait un chat sur les genoux et il y avait noté problème de boule de poil. Voilà, la finesse et le poil, c'est magique. Hein. Donc, un petit moment d'échange avant de clôturer l'émission. On parle des salons de coiffure, est-ce que vous avez un nom de salon de coiffure qui vous fait vibrer, vous, personnellement?
Alors, moi, j'ai trouvé Faudra t'y faire.
Avec Tif et R, c'est ça, ouais. Il y a le combo, c'est magique.
Il y a les deux.
Ah, c'est magique.
Ah non, moi, je suis plus simple. Moi, c'est le Spider-Man. Oui. Ça me fait beaucoup rire, voilà, le côté Marvel.
Ouais, donc s'il y a l'étoile dans les cheveux, ça passe, quoi. Alors moi, j'hésite beaucoup entre le Breaking Barb et le, tout simplement, Nike Air avec un H. Simple, tu rajoutes une lettre. Je sais pas s'ils sont pas encore en procès, hein, pour le coup. Et juste avant de clôturer, est-ce que vous avez un chauve à nous donner pour tous mes camarades qui ont envie d'avoir un exemple dans la vie?
Bruce Willis.
Oh, y avait une sensualité dans la façon de le dire. On sent que c'était vécu, quoi.
Moi, je vais plutôt partir sur un Jason Statham.
Jason Statham? Eh ben moi, je vous dirais Monsieur Propre, dont j'ai appris en faisant la chronique que c'était une icône gay à l'époque, puisque avoir une boucle d'oreille et faire le ménage, ça faisait de lui quelque chose de gay, alors qu'en fait, au départ, le crâne rasé, la boucle d'oreille et le ménage, c'était une référence au djinn, au génie. Type Aladdin. Bon, en tout cas, on va se laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez suivi Le Conseil de Classe, l'émission qui parle de tout et de n'importe quoi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. À très bientôt, au revoir.